Bonjour à toutes et à tous, Jérôme Bernard pour ce journal d'ONU Info. Au menu, le Conseil de sécurité discute de la situation en Afrique de l'Ouest et en particulier des élections à venir dans plusieurs pays. En Australie, les feux de forêt ont fait plus de 20 morts et détruit des centaines de milliers d'hectares. À Genève, des centaines de lycéens de 25 pays sont réunis pour débattre des technologies au service du développement. Et en dossier, un haut responsable de la police de l'ONU nous raconte son expérience sur le terrain, notamment au Mali. L'Afrique de l'Ouest est affectée par un niveau de violence terroriste sans précédent. C'est ce qu'a expliqué mercredi matin l'envoyé de l'ONU dans la région, Mohamed Ibn Chambas, devant le Conseil de sécurité. Il a toutefois estimé que la situation sécuritaire ne devait pas éclipser les développements politiques positifs en Gambie, en Mauritanie, au Sénégal et au Sierra Leone. Il a aussi rappelé que 6 pays de la région organisaient des élections au cours des prochains mois. On l'écoute.
Le 22 février, le Togo tiendra sa prochaine élection présidentielle. Suite aux récentes réformes électorales et constitutionnelles, il est important que tout grief pré- ou post-électoral soit traité par les voies légales. Le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée et le Niger se préparent également pour des élections qui auront lieu plus tard dans l'année. Les griefs non réglés, les processus de réconciliation nationale inachevés et les sentiments de manipulation des institutions et des processus comportent des risques de tensions et de manifestations de violences politiques. La reprise du dialogue en Guinée sous l'impulsion de l'ONU et des partenaires a donné de grands résultats. L'ONU réitère ses appels aux acteurs nationaux pour qu'ils surmontent leurs divergences dans un esprit de consensus afin d'assurer la tenue d'élections législatives pacifique prévue pour février 2020. Dans les mois à venir, le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel continuera de travailler en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes nationales et les partenaires régionaux pour promouvoir le consensus et la participation de tous aux élections qui seront organisées dans la région.
En Australie, les incendies catastrophiques et sans précédent qui font rage depuis septembre dernier ont tué plus de 22 personnes, détruit des centaines de maisons et ravagé des centaines de milliers d'hectares de terre. La faune, les écosystèmes et l'environnement ont été gravement affectés. Plus d'explications avec Claire Nullis, porte-parole de l'OMM, l'Organisation météorologique mondiale.
Les incendies ont conduit à une qualité de l'air dangereuse qui constitue une menace pour la santé humaine dans les grandes villes d'Australie, se propageant en Nouvelle-Zélande et envoyant de la fumée vers l'Amérique du Sud. Le coucher du soleil à Buenos Aires serait devenu rouge et le ciel dans le centre du Chili serait gris à cause de la fumée. Et la fumée serait en train de faire le tour de la planète. Environ un tiers de l'île Kangourou, une destination populaire de vacances en Australie, a brûlé. Les incendies de forêt libèrent des polluants puissants comme le dioxyde de carbone et d'autres composants organiques dans l'atmosphère. Ces incendies ont brûlé ces mêmes forêts qui sont vitales pour éliminer le dioxyde de carbone. Il y a actuellement un bref répit, les températures ont baissé et il a un peu plu dans les zones touchées. Mais les températures devraient remonter d'ici la fin de la semaine.
The temperatures are expected to rise again by the end of the week.
Un sommet mondial des jeunes visionnaires a ouvert ses portes ce mercredi à Genève sous le thème de la technologie au service du développement. Cette rencontre de 3 jours, organisée par l'Union internationale des télécommunications et le lycée international Ferney-Voltaire, est l'occasion pour des lycéens et des étudiants de débattre de la façon dont ils entendent tirer parti des technologies pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés. On écoute les précisions d'une participante du sommet, Jessienne Gray.
Le thème de la conférence cette année, c'est les technologies pour le développement. C'est une conférence qui est vraiment ancrée dans les nouvelles technologies, dans les nouveaux enjeux qui émergent. Par exemple, l'intelligence artificielle, par exemple, comment utiliser les technologies de l'informatique et des communications pour améliorer l'accès à la santé, l'accès aux soins, l'accès à l'éducation. Donc c'est une conférence qui prend des problématiques traditionnelles, des problématiques comme les soins, la pauvreté, la situation des réfugiés et qui croise ça avec l'émergence de nouvelles technologies qui peuvent nous aider à résoudre ces problématiques mais qui peuvent aussi créer de nouveaux problèmes. Donc c'est vraiment une question de réguler ça, de penser en avant pour éviter tout ce qui peut mal se passer avec ça mais aussi pour bien exploiter l'énorme potentiel de cette technologie. Alors, à cette édition de Fermune 2020, il y a plus de 700 jeunes qui vont assister de presque 25 pays différents et d'une cinquantaine d'écoles partout dans le monde. On a des écoles de 23 pays différents.
Retour sur le passage à New York il y a quelques semaines d'Issoufou Yakouba, le chef de la police de la mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA. Devant le Conseil de sécurité, il avait expliqué que la lente mise en œuvre de l'accord de paix au Mali avait érodé la confiance des citoyens et créé un environnement propice aux organisations terroristes. Au micro de Jérôme Longuet, il est revenu sur son expérience au sein des Nations Unies et les critères de réussite de la police de l'ONU au Mali.
J'ai travaillé d'abord au Congo, où j'étais d'abord commandant de secteur, dans l'unique secteur qui existait pour la police, c'était Kisangani, où le police commissionnat, il était au nombre de 13 à Kinshasa, pour développer le projet pilote. Et de là, j'ai eu la chance d'être déployé en tant que chief of staff, parce qu'il n'y avait pas d'adjoint. Donc, chez le chef de l'administration qui faisait office d'adjoint. Et j'ai eu la chance de travailler également à Kinshasa, où nous avons travaillé à la réunification, à la sécurisation pour le retour de tous les belligérants à Kinshasa et voir les aires de sécurisation pour éviter des heurts entre ces structures-là. Et nous avons posé les jalons de la police moderne avec des centres de formation que nous avons réhabilités, ouvert également certaines structures à l'intérieur. De là, maintenant, je suis parti au Burundi à la création de cette mission qui passait de la bannière de l'Union africaine aux Nations Unies pour être le témoin. Et donc, j'étais là-bas comme adjoint au commissaire de la composante police, où nous avons travaillé également pour aider à la reconfiguration de la nouvelle police et également aider à la tenue des élections libre et transparente.
Est-ce que vous servez souvent de ces expériences pour vous y référer avec vos interlocuteurs? Est-ce que c'est également une source de motivation pour essayer de vous acquitter de votre mandat?
Absolument, je m'en sers assez souvent parce que je dis, on n'est pas venu vous apprendre, on est venu partager des expériences. Et je pense qu'il faut être humble en ce que nous faisons. Quand même, le Mali, c'est un grand pays qui a une longue histoire, qui a beaucoup d'expérience, mais malgré tout, a besoin de connaître comment d'autres ont géré des situations difficiles. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, je pense que moi, je peux donner des choses par comment on a pu gérer la rébellion des années 90. Moi, j'ai représenté la police dans la structure qui a été créée pour la restauration de la paix. Donc, jusqu'à ce qu'il y ait l'intégration au niveau de la police, on a posé des cas pratiques. Donc, c'est des exemples que nous donnons souvent. J'ai d'autres pays qui donnent d'autres exemples aussi. Mais le Mali aussi a des expériences à exporter. C'est ce qui fait aussi la source d'inspiration au sein des Nations Unies.
Vous êtes au Mali depuis mai 2016, donc ça fait plus de 3 ans. Lorsque vous arriverez au terme de cette nouvelle mission, pour vous, quels sont les critères de réussite? Vous vous direz, j'ai accompli mon mandat, j'ai réussi. Sur quelle base?
Pour moi, si les forces de défense et de sécurité ont été reconstitués, si au moins dans les zones qui ont été identifiées par les gouvernants, on a redéployé des forces et qui sont capables de protéger les populations. Donc, rien que dans une certaine mesure, parce que je sais que c'est un long processus, mais un des critères pour nous, c'est d'abord que nous ayons des forces qui sont acceptées par les populations. D'abord un, et l'exploitation, c'est-à-dire qu'à travers ce qu'on entend de mettre la police de proximité, c'est une sécurité de proximité. Vous voulez qu'il y ait l'alerte précoce, vous voulez que les gens fassent confiance, mais soyez à côté, pas des dizaines ou des centaines de kilomètres. Là, les gens ne vous croiront pas, parce que le problème que nous avons et que ce que les populations nous reprochent, c'est d'arriver comme le médecin après la mort. Et c'est ce qui fait que souvent les gens pensent que nous sommes inefficaces. Donc c'est ce qu'il faut travailler à mettre en place, un système d'alerte pour qu'il y ait plus de réactivité. Et maintenant, chaque composante de la population sera un point focal, ils ont des points focaux. Ceux qui sont dans le domaine de l'éducation, le domaine du transport. Donc tous les groupes thématiques auront des points focaux sous la houlette des maires, des commandants de cercle, jusqu'à arriver au niveau central. Donc c'est vraiment développer la résilience à la base. Donc faire en sorte qu'il y ait le rapprochement entre les populations et les forces de sécurité. Et là, en ce moment, je pense qu'il n'y aura pas le moindre périmètre pour les groupes terroristes ou bien les groupes extrémistes. Jusqu'ici, dans l'ancienne méthode de gestion des questions de sécurité, la réussite se mesure au taux d'élucidation des affaires. Or, en matière de terrorisme, quand un seul cas, il est déjà de trop, c'est l'hécatombe. Et c'est de faire en sorte qu'on change de paradigme pour que, du fait de la gestion partenariale entre population et tous les bénéficiaires des services de sécurité dans cette approche partenariale, qu'on agisse, mettre l'accent sur la prévention.
Voilà, fin de ce journal de Nuit Info. Retrouvez sur notre page internet, nos comptes Twitter et Facebook. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.